Les États-Unis d'Amérique plaident pour le strict respect de la Constitution congolaise dans l'organisation des élections transparentes et équilibrées en 2016. Cette déclaration est de l'envoyé spécial de Washington dans les Grands Lacs et en RDC mardi dernier. À Kinshasa, dans une conférence de presse, Russ Feingold a affirmé que son pays encourageait les présidents africains à respecter leur mandat constitutionnel. Quelle analyse faire de cette déclaration? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, nous recevons comme invité Serge Kadima, cadre du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Monsieur Kadima, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain.
Martin Mukonko, le secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement, parti politique de l'opposition. Monsieur Mukonko, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique. Il est également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs et auditrices.
Voilà, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire, les États-Unis d'Amérique plaident pour le strict respect de la Constitution congolaise dans l'organisation des élections transparentes et équilibrées d'ici à 2016. Déclaration de l'envoyé spécial de Barack Obama dans les Grands Lacs et en RDC dans une conférence de presse à Kinshasa. Russ Feingold a notamment abordé des questions sur le processus de stabilisation de la RDC, la gouvernance et la loi sur l'amnistie. Michel Kifindangoy.
En rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, l'envoyé spécial des États-Unis affirme s'opposer à toute tentative de réorganisation du M23 dans certains pays voisins à la RDC. Russ Feingold.
Nous essaierons de voir de près s'il y a quelques preuves que ce soit concernant le M23 s'il essaye de recruter de nouveaux membres. Et nous y appuyons les remarques de Martin Colbert qui avait déclaré notamment que toute tentative du M23 de se réorganiser recevra une réponse ferme adéquate.
Le sénateur américain exige par ailleurs le désarmement de tous les groupes armés, y compris le FDLR. Au sujet de la loi d'amnistie en cours d'examen au Parlement, Russ Feingold estime que cette amnistie ne devrait pas seulement être appliquée aux personnes impliquées dans des groupes armés. Préoccupé par la question de gouvernance, les sénateurs américains plaident pour l'organisation des élections libres, transparentes et équilibrées d'ici 2016.
Les élections, bien sûr, de 2011 étaient assez sérieusement viciées et ne répondaient pas aux normes d'élections transparentes et équitables. J'ai toujours encouragé vivement les présidents africains afin qu'ils respectent les mandats qui leur ont été assignés. La loi fondamentale, bien sûr, se portera mieux si elle n'est pas modifiée pour qu'un troisième mandat puisse être accordé.
Pour Russ Feingold, les États-Unis soutiennent le respect de la constitution actuelle de la RDC dans l'organisation des prochaines élections.
Merci Michel Kifindangoy. Serge Kadima, vous êtes cadre du PPRD, parti de la majorité présidentielle. À tous, je vous demande d'abord que l'on commence par faire une analyse sur cette déclaration par rapport à l'Afrique en général, et puis nous reviendrons sur la RDC. J'ai toujours encouragé vivement les présidents africains afin qu'ils respectent les mandats qui leur ont été assignés. Serge Kadima, comment sur le plan africain vous analysez cette déclaration?
Merci monsieur Alain pour l'invitation et l'opportunité que vous m'accordez pour afin que je puisse m'exprimer devant toutes les personnes qui suivent Radio Capi à travers le monde. J'aimerais dire tout simplement que la position de l'envoyé spécial de monsieur le président des États-Unis Barack Obama c'est une position en fait qui vient encourager tous les États comme lui-même l'a dit et je pense que c'est ce qui est en train de se faire et lorsque vous voyez la solidarité des présidents africains lorsqu'il y a des problèmes dans un pays ou dans un autre d'Afrique, ils se mettent d'accord pour faire respecter les prescrits par rapport à la volonté du peuple, à la volonté du peuple africain, à la volonté du peuple des différents pays d'Afrique. Donc la position jusqu'à preuve du contraire par rapport au respect de délais constitutionnels par rapport au mandat de président africain, je pense que c'est aussi la position de tous les peuples africains.
Honorable Martin Mukonkole, vous êtes secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement, parti politique de l'opposition. Un mot également sur cette déclaration, comment vous l'abordez sur le plan africain?
Nous tenons d'abord à remercier Radio Capi pour l'invitation.
Et nous présentons les vœux à tous les auditeurs parce que cette année soit une année de victoire et de concrétisation de la véritable démocratie dans notre pays. Et s'agissant de la déclaration du sénateur, je crois qu'il a totalement raison parce que nous pouvons vérifier sur les 54 pays et tous les présidents africains n'ont pas encore la culture de respecter les différentes constitutions. Ils n'ont même pas aussi la culture de respecter les termes des mandats. Donc ils ne sont pas encore réellement dans les principes de la démocratie. À ce niveau, je crois, c'est une bonne mise en garde et nous n'allons pas nous limiter seulement à cette mise en garde. Nous aimerions que les États-Unis continuent réellement jusqu'à faire réellement appliquer la véritable logique de respect des textes et surtout le respect des délais des mandats. Parce que ce n'est pas dans la culture des différents chefs de l'État. La preuve en est qu'ils ont fait une association des chefs de l'État qui ont comme principe de pouvoir pérenniser leur pouvoir en acceptant modifier la Constitution à chaque fois qu'ils en ont l'occasion.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, quelle est votre analyse une fois de plus par rapport au continent africain?
Merci pour cette prise de parole. C'est qu'il faut bien se rendre compte et remettre dans cette déclaration dans le contexte général de la politique américaine vis-à-vis de, du reste du monde et en particulier vis-à-vis de l'Afrique. En fait, la politique américaine, de manière très claire, est assez ciblée, est assez différenciée en fonction des pays avec lesquels ils conservent des relations privilégiées ou pas. Si vous regardez bien, vous suivez la plupart des discours du président Obama, il est tout à fait certain et indiqué chaque fois qu'il insiste toujours beaucoup sur la question des institutions et non pas sur la question des hommes. En 2009, il avait déjà déclaré, lorsqu'il avait fait sa première tournée en Afrique, de manière très claire, il avait été clair à ce sujet en disant dans son discours devant le Parlement du Ghana que l'Afrique n'avait pas besoin des hommes forts mais plutôt des institutions fortes. Et de plus, il avait au cours de ce discours dénoncé les changements de constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc sans problème, on peut bien voir ça, que ça s'inscrit de manière très claire dans la tradition de la politique américaine vis-à-vis du continent africain et vis-à-vis de plusieurs pays au niveau étranger, qui est de pouvoir arriver à avoir ce qu'on appelle des partenaires, avec discuter avec des gens qui sont légitimement élus et qui représentent leur peuple de manière légitime. C'est pour ça, par exemple, que les États-Unis ont suspendu une partie de leur aide vis-à-vis de l'Égypte, alors qu'il y a un partenaire privilégié, parce que l'Égypte avait connu un coup d'État et ce sont les militaires qui sont au pouvoir actuellement. Et donc, cela étant, donc, de manière très claire, donc, il s'agit simplement de la continuité de la politique américaine. Alors, le fait nouveau de ce discours revient parce qu'il y a un contexte tout à fait particulier pour ce qui concerne le continent africain. Le continent africain, du point de vue économique, devient un partenaire plus qu'intéressant du fait que les taux de croissance sont de plus en plus importants et qu'il y a une classe moyenne qui se dessine au niveau du continent. Donc le continent devient un continent plus qu'intéressant et plus un continent délaissé comme c'était le cas avant. Et donc ça veut dire que, de manière très claire, il faut s'attirer les bienveillances de cette classe moyenne. Et pour s'attirer les bienveillances de cette classe moyenne, il est impératif pour les États-Unis de pouvoir adopter un discours qui tient compte de ces intérêts-là et qui répond à ces objectifs que je viens de définir tout à l'heure des États-Unis. C'est-à-dire, grosso modo, la politique vise de manière très claire à consolider et accréditer la place des États-Unis dans les relations internationales de l'Afrique.
Voilà. Serge Kadima, revenons maintenant à la RDC, les États-Unis d'Amérique qui plaident pour le strict respect de la constitution congolaise dans l'organisation des élections transparentes et équilibrées d'ici à 2016. Qu'est-ce que ça représente pour vous? N'y aurait-il pas des arrière-pensées derrière cette déclaration?
Bon, des arrière-pensées, pour nous, non. Plutôt, comme je l'avais dit, que c'est un encouragement. Vous savez, par rapport à la RDC, nous avons eu à organiser des élections et nous avons respecté la Constitution, c'est-à-dire que le président de la République a respecté la Constitution. Et par rapport à cela, si peut-être les gens pensent qu'il y a eu, il y a peut-être des arrière-pensées, c'est peut-être par rapport au président de la République, Joseph Kabila. Mais lui, il est respectueux de la Constitution et je pense plutôt que ce qui nous préoccupe ou bien qui préoccupe le président de la République, c'est l'amélioration du vécu quotidien parce que il jouit jusqu'à preuve du contraire de ces 5 années qui lui a été confiées par le peuple congolais au travers des élections de 2016. Mais quelque chose que nous pouvons peut-être relever, c'est que c'est bien d'organiser les élections en 2016 comme les prescrit notre constitution actuelle. Mais il y a une réalité qui s'impose, c'est celle de comprendre que les élections de 2016 seront dictées par les réponses aux critiques qui ont été formulées lors des élections de 2011, parce que tout le monde sait qu'il y a eu des erreurs qui ont émaillé les élections de 2011. Entre autres, il y a des préalables maintenant qu'il faut évoquer pour que après des élections, qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de pertes en vies humaines, qu'il n'y ait pas des dégâts sur le plan financier. Alors aujourd'hui, la RDC vient de connaître il y a 2 ans des problèmes majeurs liés aux élections de 2011. Et par rapport à cela, il y a quand même des exigences. Comme je disais tout à l'heure, il faut corriger les imperfections pour ouvrir une nouvelle page par rapport aux élections. En 2016, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des élections, il faut que ce soit des bonnes élections. Alors pour que ce soit des bonnes élections, il y a le concertateur ont soulevé un certain nombre de préalables, notamment le recensement administratif qui est en fait le gage d'un crédit par rapport aux élections. C'est vrai qu'il y a eu le premier cycle, c'est-à-dire les élections de 2006, pour lesquels les cycles n'étaient pas arrivés à la fin, parce qu'on n'a pas eu à organiser les élections municipales et locales. Et en 2011, il y a d'autres élections jusqu'à preuve du contraire qui ne sont pas encore organisées. C'est bien d'organiser les élections en 2016, mais il y a des conditions et des exigences. Ces exigences-là, entre autres, c'est le problème des moyens, parce que pour crédibiliser ces élections, il faut que ça se passe de manière confortable. Je pense que l'idéal pour tout le monde, pour tous les Congolais et pour tout le monde à travers le monde, à travers l'Afrique, c'est de respecter les délais constitutionnels, mais il faut que ce soit des bonnes élections.
Alors vous dites que le président Kabila est respectueux de la Constitution, mais il y a plusieurs analystes et on l'a vu plusieurs publications dans lesquelles beaucoup d'observateurs dénonçaient le fait que c'est l'entourage du président de la République, notamment faisant allusion à l'ouvrage du professeur Bouchab, voudrait déjà commencer à préparer le terrain pour une révision constitutionnelle probable.
Je pense plutôt que ce sont des projections mentales. Le professeur Evariste Boussab, qui se trouve être le secrétaire général du PPRD, c'est un professeur des universités. Il donne les cours de droit constitutionnel et cette publication s'inscrit dans la liste de ces différentes publications au niveau de l'université. Et ça n'a rien à voir avec les élections de 2016. Nulle part, dans aucune page, il a parlé des élections de 2016. Dans aucune page, il a évoqué la situation de notre pays. Il a plutôt parlé des pays africains. Donc, c'est une publication scientifique. Je pense que pour qu'une publication scientifique soit critiquée, c'est par une autre publication, ce n'est pas par les déclarations intempestives ou bien à bout portant de certains politiciens qui pensent qu'ils peuvent se permettre de critiquer une publication qui a été préparée pendant des années au bout de 2 heures.
Alors, quand vous commencez à vous parler de l'organisation des élections en 2016, vous commencez déjà à évoquer les préalables, le recensement, les moyens. Ne peut-on pas lire entre les lignes que ces élections seraient hypothétiques?
Non, ce n'est pas que je suis en train d'évoquer. C'est clair et net que tout le monde a constaté après les élections de 2011 qu'il y avait des problèmes. Que ce soit nous-mêmes en interne, que ce soit sur le plan international, on a reconnu qu'il y avait des erreurs. Et je pense que lorsqu'on ne se sert pas des erreurs du passé pour corriger, enfin de projeter un avenir meilleur, je pense que nous sommes en train de faire une erreur. Ce n'est pas seulement nous, mais au niveau même du Parlement. Aujourd'hui, j'ai vu que le président Malumalu était devant les députés pour expliquer la suite, sinon la poursuite du calendrier. Mais même l'opposition, même la majorité, lorsque vous vous souvenez bien qu'au niveau de la Cour suprême de la justice, il y avait et les candidats de l'opposition et les candidats de la majorité qui se plaignaient par rapport aux résultats, sinon par rapport à la manière dont les élections s'étaient déroulées. Alors pour corriger cela, enfin qu'il n'y ait pas encore de problèmes dans le futur, il faut déjà maintenant réfléchir, identifier les vrais problèmes afin d'évaluer quel type de solution y apporter.
Honorable Martin Moukonkolé, par rapport à la RDC, comment vous analysez cette déclaration? Serge Kadima dit que le président Kabila est respectueux de la Constitution.
Je vais d'abord rappeler l'acte constitutif de l'Union africaine, ça a été signé le 30 janvier 2007. Et cette charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance avait, dans ses articles 3 et 4, précisé qu'il y avait l'exigence d'instaurer la bonne gouvernance. Il y avait l'exigence de faire la participation populaire à la désignation des animateurs des institutions. Et il y avait aussi l'exigence de rester dans le respect de l'état des droits et enfin de rester aussi dans le respect des droits de l'homme. Et on avait aussi insisté qu'il fallait enraciner une culture d'alternance politique dans les continents. Ça, c'est d'une façon générale à ce qui concerne l'Afrique. Et vous constaterez que dans plusieurs pays d'Afrique, on a même violé les principes d'une charte signée par les différents chefs de l'État qui engagent les différentes nations. Parlons maintenant de la situation de notre pays. Je suis étonné et surpris de voir Serge. Je comprends Serge, peut-être il est là que pour dire ce qu'il peut dire, mais arriver à déclarer que l'organisation des élections dans notre pays, c'est vraiment un processus qui est en train de se faire, et parce qu'il y a des exigences. Et il veut me dire que le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement qui est respectueux de la Constitution. Ce sont des déclarations très graves. Par les faits, nous constatons et nous lisons que quand les sénateurs viennent expliquer les faits, ils reconnaissent d'abord que 2011, les élections ont été chaotiques. Si nous étions dans une logique mathématique, quand vous surprenez un professeur qui a vendu son examen, on sanctionne le professeur parce qu'il a vendu l'examen, et vous ne pouvez pas laisser l'élève qui a triché l'examen, qui a acheté l'examen, vous ne pouvez pas le proclamer et dire qu'il a réussi. Mais c'est seulement chez nous, au Congo, là, on accepte des choses comme ça. Je vais revenir à l'essentiel. Le sénateur a bien précisé dans sa déclaration qu'il tient à ce que les élections se tiennent en 2016. Et il insiste sur le respect de la Constitution. Nous nous disons, au niveau de l'opposition et au niveau de notre parti, nous voulons bien que les institutions actuelles s'organisent pour qu'en 2016, nous organisons les élections présidentielles. Et c'est ainsi que nous nous opposons au projet de calendrier de l'abbé Malumalu, qui est d'ailleurs en train d'aller en contradiction avec les sénateurs, les représentants des États-Unis, qui recommandent que nous puissions avoir des élections démocratiques et transparentes en 2016. Mais vous voyez que la CENI nous amène une proposition d'un calendrier pour qu'on commence avec les élections locales. Une façon de projeter les élections provinciales en 2017. Donc, violer déjà les principes, violer la Constitution et ne pas respecter les délais des mandats que nous avions accordés. Malgré tout ce qu'il y a eu, nous nous disons que c'est en 2016 que les 5 ans des institutions en place, c'est-à-dire les élections présidentielles, doivent se tenir parce que le chef de l'État arrivera à la fin de son mandat. Et arrivé à la fin de son mandat, je crois, ce n'est pas au hasard. Nous sommes en train, nous, au niveau de la CVD, et au niveau aussi de Sauvons la RDC, qui est un regroupement, une plateforme de l'opposition, de nous organiser pour que nous arrivions à matérialiser les avis des représentants du président des États-Unis, parce que nous réclamons un véritable dialogue. Et cela, ça veut même expliquer que même M. Martin Kobler, quelque part, il a failli à sa mission lui accordée par la résolution 2098. On a demandé qu'il devrait faciliter la tenue du dialogue afin d'arriver à la cohésion nationale. Ça n'a jamais été fait et c'est pourquoi je crois que le sénateur n'a pas tort et nous nous souscrivons dans cette démarche parce que nous ne voyons même pas pourquoi on doit chercher des préalables. Il y a Serge qui veut nous parler, il faut qu'on passe par le recensement. C'était la compétence du gouvernement. Ce gouvernement qui est incapable de pouvoir faire quelque chose d'essentiel. Je me demande pourquoi on veut maintenant conditionner l'organisation des élections par les recensements.
Et donc, de votre point de vue, en un mot, la majorité serait en train de s'arranger pour prolonger son mandat.
Mais je crois que pour cette fois-ci, notre peuple va les opposer une résistance farouche.
Professeur Bob Kabamba, par rapport à la RDC, la majorité veut prolonger le mandat du président Kabila. La majorité dit non, elle est respectueuse de la Constitution. Comment vous analysez toutes ces déclarations au regard de ce qu'a dit le sénateur américain?
Oui, deux choses, Monsieur Erung. Donc, il y a d'abord une première chose, c'est que il s'agit au fait d'un discours qu'il a tenu devant le sénateur. Je parle du sénateur américain qui est envoyé spécial donc de Washington dans la région des Grands Lacs. C'est un message au fait qui s'adresse à tous les États de la région des Grands Lacs. Pour bien comprendre, il suffit uniquement de regarder les calendriers et de lire les constitutions des différents pays de la région pour comprendre que la région se trouve à un tournant. Pourquoi la région se trouve à un tournant? Vous regardez, la plupart des élus des présidents de la République de la région sont en fin de mandat. Vous prenez le Rwanda, le président Kagame est élu jusqu'en 2017, et en 2017, normalement, il n'a pas le droit de se représenter après 2017. Vous prenez le Burundi, le président burundais est élu, ça fait deux mandats, et lui, il est élu jusqu'en 2015, donc il ne peut plus prolonger après 2015. Le président ougandais a modifié la constitution, lui, il pourrait se représenter pour autant de fois qu'il veut, mais vu l'âge, bon, ça devient difficile pour lui de tenir, même si on a eu d'autres cas des pays africains où on a des dirigeants de plus de 80 ans qui se sont portés candidats et même beaucoup plus. Vous avez le Congo-Brazzaville qui est dans la même situation en 2015. Vous avez le Congo-RDC qui est pour 2016. Donc toute la région se retrouve à un moment très critique où on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. Est-ce que c'est tous ces pays que je viens de citer où les présidents de la République sont fin mandat vont s'amuser à aller commencer à réviser les dispositions qui empêchent effectivement de concourir à des mandats, à d'autres mandats? Le débat est là et la situation politique est intéressante à suivre et j'ai eu l'occasion de pouvoir me rendre plusieurs fois au Burundi et suivre le débat qui est en train de se passer dans ce pays. On se rend compte que le Burundi est le premier pays à ouvrir le débat sur la révision constitutionnelle. Et la situation au Burundi, elle est assez intéressante à suivre, ce qui va donner à mon avis le là par rapport aux autres pays. C'est que le Burundi a trouvé l'astuce, si je peux m'exprimer ainsi, l'autorité burundaise, donc je ne parle de l'autorité burundaise, ça veut dire le régime burundais, semble non pas dire qu'ils vont réviser la constitution, ils disent que non, ils vont essayer de mettre fin à la situation de la transition et de commencer une nouvelle ère. Ce qui veut dire, en gros, pour parler clairement, on appelle ça tabula zéro. Ça veut dire on efface tout et on recommence puisque nous ne sommes plus dans leur entendement dans la transition et on commence une nouvelle période. Et la nouvelle période veut dire aussi que le président actuel peut se représenter. Et cette situation telle qu'elle est en train d'évoluer, mais bien sûr qu'elle ne se passe pas sans heurts avec l'opposition qu'il y a au niveau international et au niveau même de l'opposition de la population et des partis politiques d'opposition burundaise, fait en sorte que on a de plus en plus du mal à avoir. Donc la situation, elle est celle-là. Quelle est maintenant la vision? Comment les choses vont se passer? Alors le discours, de manière très claire, d'Obama a même rappelé lors de son discours sur l'Union, est très clair, c'est qu'il n'admettra pas qu'il y ait des présidents qui vont modifier les constitutions pour se représenter au-delà des mandats qui sont requis par les textes constitutionnels, aussi bien au Rwanda, Burundi, Ouganda, RDC, Congo, etc. Et même l'Angola est aussi dans une certaine mesure dans le même cas. Et donc c'est une façon de pouvoir réaffirmer haut et fort que les États-Unis tiennent à avoir des institutions fortes et non pas des hommes forts. Ça c'est de manière générale par rapport à la région. Alors si on reprend le cas de la RDC, j'ai bien lu les discours avant le débat, bien sûr, j'allais regarder les discours des uns et des autres. Je lis que Obaminaku déclare de manière sans ambiguïté que le chef de l'État, Joseph Kabila, va respecter la Constitution. Quand on dit « va respecter la Constitution », ce qui veut dire de manière très claire, sans ambiguïté, qu'il ne peut pas se représenter pour un troisième mandat. Alors, quant à l'autre question, qui est une question différente, donc pour le deuxième aspect de la question que vous posez, en disant « est-ce que les élections vont avoir effectivement lieu en 2016 ?» qui est la question principale de la deuxième partie de votre question. Là, on va ouvrir un autre chapitre, pour la bonne et simple raison, quand on pose la question de dire qu'est-ce qu'on veut comme élection, est-ce qu'on veut des bonnes élections, pas des bonnes élections ou pas, etc. Tout dépend en fait, des acteurs politiques congolais. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces acteurs? Est-ce qu'ils veulent avoir des élections en bonne et due forme ou pas? Je ne peux pas rentrer ici dans le débat qui a déjà eu lieu aussi bien au niveau de l'Assemblée qu'au niveau des différents politiciens congolais, à savoir est-ce que on maintient le fichier électoral actuel, ça veut dire qui définit le corps électoral aujourd'hui, qui va être le même pour 2016, ou bien est-ce qu'on passe par l'une des exigences fondamentales et qui est tout à fait légitime de l'opposition qui dit il faut passer par un recensement clair pour avoir un corps électoral de manière identifiée sans ambiguïté. À ces deux questions, au fait, dépend de 2016.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Serge Kadima, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Jean-Pierre Foto, avocat de Kisangani en province orientale. Je pense que l'administration américaine n'a rappelé que les valeurs universelles de la démocratie qui semblent être un luxe pour les dirigeants africains, dit Jacques Chirac. Il faut que les dirigeants africains s'y conforment, sinon le printemps arabe va s'étendre en vue de remettre le pouvoir au souverain primaire.
Réaction Serge Kadima.
Non, il n'a pas tort. On dit pratiquement la même chose. C'est-à-dire qu'il est conscient, comme tous les Congolais, qu'en 2016, en 2011, il y avait des élections et on doit organiser d'autres élections en 2016, mais ces élections doivent être de qualité. Et c'est l'effort que le gouvernement est en train de fournir maintenant en mobilisant plus de moyens pour donner les moyens conséquents à la structure qui est chargée d'organiser les élections. Mais ce qui est très important, c'est que c'est vrai que la démocratie doit être une démocratie de qualité. Il ne faudra pas que ce soit une démocratie où on vous impose des choses. Là, ça ne sera plus la démocratie. Et il sera d'accord avec moi que même après les élections de 2011 à Kisangani, il y a eu des problèmes. Je suis convaincu que dans les tribunaux de Kisangani, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés se plaindre là-bas par rapport aux erreurs qu'il y a eu. C'est vrai que nous avons besoin de la démocratie tous, mais il faut que cette démocratie puisse régler les différents conflits qui naissent juste après les élections.
Alors là, il a fait allusion au printemps arabe, mais on sait par exemple qu'au Burkina Faso, il y a des gros poissons de la majorité présidentielle qui ont quitté le parti présidentiel par le simple fait que le président avait l'intention de modifier la constitution. Est-ce qu'en RDC, c'est possible?
Bon, de toutes les façons, ici, c'est différent. C'est différent parce que nous ne sommes pas dans une situation où le président en place veut changer la constitution. Le président en place veut donner une leçon aux Congolais, aux Africains. Il veut donner l'opportunité à tout le monde d'observer à la remise et reprise entre un président sortant et un président entrant. Et c'est ça sa volonté. Et lorsque vous voyez les actes qu'il pose à travers la République, ce sont des actes des actions, en fait, qui seront profitables, qui seront toujours là, même 30 ans plus tard, même 50 ans plus tard. Alors, le président de la République, Joseph Kabila, étant respectueux de la Constitution, il est en train de vouloir fournir cet effort-là. Et c'est comme ça que le gouvernement en place, sous l'impulsion du président de la République, on mobilise les opportunités pour les mettre à la disposition de la CENI afin d'organiser des élections crédibles. Et j'aimerais aussi, par la même occasion, solliciter, par exemple, de la part du sénateur américain, de continuer à nous aider, comme ils l'ont fait en 2006, à nous aider à trouver des moyens pour que nous puissions organiser de bonnes élections.
Maurice de Kinshasa dit, une déclaration c'est bien, mais il serait meilleur et pragmatique. Les États-Unis s'investissent, par exemple, en usant des représailles contre tout chef d'État qui tenterait de modifier l'article verrouillé de la Constitution qui limite le nombre des mandats comme c'est le cas au Burkina Faso. Le Burkina Faso, on en a parlé, mais est-ce qu'il faudrait que les États-Unis usent des représailles?
Je pense plutôt qu'il faut trouver des solutions en amont. Il faut trouver des solutions en amont pour que l'on trouve des solutions en amont. Je pense que c'est un problème de moyens et dans les cas d'espèce, la RDC, à travers son gouvernement, mobilise des moyens et la CENI cherche aussi des moyens que les États-Unis nous aident aussi à trouver des moyens à nous accompagner dans la consolidation de cette démocratie en République démocratique du Congo.
Jean Tokyo, lui, il est à Arua, en province orientale, il dit « Je ne partage pas l'avis du gouvernement américain car ce sont les mêmes Américains qui soutiennent ces dirigeants africains pour leurs intérêts, Serge Kadima. »
Bon, c'est son point de vue, c'est son point de vue. Je pense que nous parlons de la démocratie. La démocratie voudrait aussi que je respecte son point de vue. Mais moi, je pense tout simplement que la position des États-Unis, c'est une position qui vient nous encourager. C'est une position qui rencontre, en fait, la volonté de tous les peuples congolais de voir des élections démocratiques et transparentes s'organiser. Mais ceci impose des moyens. Nous voulons qu'il y ait des élections en 2016. Peut-être que je serai candidat, mais si ce sont des élections mal organisées, je vais me retrouver devant la Cour suprême de la justice avec des avocats qui auront des honoraires. Même l'honorable Mukonkole qui est à côté de moi, il était candidat. Il a été député de 2006 à 2011. Il était candidat en 2011. En 2011, on l'a vu au niveau de la Cour suprême de justice s'est plaindre parce qu'il y a eu des erreurs. Évidemment, il a dit que les élections de 2011 étaient mal organisées, mais tout le monde l'a reconnu que c'est vrai que c'était mal organisé, mais cela n'a pas changé l'ordre d'arrivée par rapport aux candidats en ce qui concerne les élections présidentielles. Donc là, on ne revient pas là. Alors, le problème ici, c'est projeter l'avenir. Alors, nous devons projeter l'avenir avec des bases solides. Des bases solides, c'est quoi? Trouver des moyens pour organiser des élections crédibles à travers des recensements administratifs. Et à ce moment-là, on aura réduit la probabilité des erreurs dans l'organisation des élections en 2016.
En un mot, pas d'élection, pas de recensement, pas d'élection.
J'ai dit qu'il y aura des élections en 2016 jusqu'à preuve contraire, mais nous voulons que ce soit des bonnes élections. C'est comme ça que le président de la République voit les choses, c'est Merci. Comme ça qu'il s'investit pour qu'on ait des élections crédibles.
Honorable Martin Mukonkole, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Suzy Mamba, j'habite à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. Personne n'a le droit de confisquer le pouvoir et le peuple congolais en ses mains en modifiant la constitution au gré de ses appétits. Néanmoins, à ce que je sache, la RDC ne pointe pas son nez dans la politique des États-Unis. Qu'est-ce qui leur confère le droit de ces régions en donnant de leçons? Pourquoi se sentent-ils obligés de mettre leur avis sur tout ce qui se passe chez nous et ailleurs? Ils devraient maîtriser le principe de non-ingérence. Je leur demanderai de nous laisser faire nos preuves en nous permettant de régler nos problèmes entre nous. Au besoin, nous leur enverrons un SOS.
Les États-Unis jouent-ils le rôle de gendarme du monde, honorable Martin Mukonkole, en donnant des leçons à tout le monde?
Non, je crois que peut-être madame ou mademoiselle Mamba n'a pas bien compris l'expression du sénateur américain. Il a parlé des conseils. Et nous sommes dans un monde planétaire, nous ne pouvons jamais continuer à rester renfermés sur nous-mêmes, sinon nous ne serons pas réalistes. Avec la mondialisation, avec la révolution pour ceux qui disent de la révolution de la modernité, je crois que nous avons besoin de tout le monde. Mais je vais revenir sur peut-être certains avis que j'ai entendus de la part de Serge. Je crois que le sénateur, il n'a pas tort de nous prodiguer ses conseils pour un régime qui est déjà à plus de 10 ans au pouvoir. Et nous sentons ce qui se drame dans la majorité, cette agitation pour ne pas permettre à la Commission nationale, la CENI, de pouvoir bien organiser des élections, enfin de faciliter réellement cette remise et reprise entre le président qui est vers fin mandat, parce qu'il est tout à fait normal, le chef de l'État étant respectueux des textes, je pense, il ne peut qu'attendre 2016 pour faire la remise et reprise. Mais quand il laisse l'institution chargée d'organiser des élections commencer par des élections locales, est-ce qu'il a réellement ces soucis-là de faire cette remise et reprise en 2016? Est-ce que le gouvernement est réellement soucié, qui est le gouvernement de la majorité? Est-ce qu'il est réellement soucié pour qu'on respecte les textes dans notre pays? Non, il n'y a pas cette volonté politique. Il ne faut pas qu'on continue à nous distraire. Et je crois, il est quand même regrettable que nous puissions continuer à recevoir des leçons jusqu'à ces jours. C'est honteux pour ceux qui sont au pouvoir actuel. 10 ans après, on doit continuer à nous faire des leçons, nous apprendre comment la démocratie doit évoluer et comment on peut accéder au pouvoir et comment on peut respecter les mandats. Non, c'est quand même regrettable.
Honorable, il y a Salomon Zaïga qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu qui dit « Je salue la pression que les États-Unis mettent sur les dirigeants africains à respecter leurs constitutions respectives afin de permettre une alternance apaisée, car sans respect de la constitution, on assiste au tripatouillage de celle-ci et cela est à la base de l'instauration des présidents à vie, d'où la paix est remise en cause et le développement hypothéqué. » Il y a également Jean de Dieu Minengo ou de Liège en Belgique qui dit « L'organisation des élections en 2016 ne signifie pas forcément la démocratisation de la RDC. Tous ceux qui parlent des élections sans se soucier de la manière dont elles devraient se faire veulent déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. » Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je crois d'abord pour Salomon, il n'a pas totalement raison, mais tant à ce qui concerne Jean Dédier, je crois que nous, au niveau de l'opposition, ça fait longtemps nous avons réclamé qu'il y ait un dialogue pour faciliter les balisages de ces processus pour qu'on arrive à organiser des élections, afin que nous puissions respecter les textes qui régissent la République. Mais si les gens sont têtus, ils ne veulent pas écouter des conseils, que voulez-vous qu'on fasse? Nous continuons avec notre combat. Nous pensons que la seule solution, il faut réellement qu'il y ait ce dialogue, et le vrai. En ayant le vrai dialogue, nous arriverons à organiser les élections vraiment en 2016 et dans de bonnes conditions.
Kassamba de Bougne en province orientale dit « La RDC étant entourée des pays dont certains considèrent l'alternance au pouvoir comme un sacrilège, un tel rappel des États-Unis est le bienvenu afin d'éviter la contagion de nos dirigeants par des tenants du pouvoir ad vitam aeternam pour qui la Constitution est une paperasse. La RDC serait-elle entourée des mauvais voisins, entre guillemets, qui ne montrent pas l'exemple? Le professeur Bob Kabamba a dressé une petite cartographie de nos voisins et des délais constitutionnels.
Mais je crois que c'est sur ce point-là, s'agissant de l'attitude de nos voisins, je donne raison au professeur Bob, sachant qu'il n'y a que, je crois, il n'y a que les Congo, non, nous, qui sommes, nous et les Rwanda, en 2016 et le Rwanda en 2017, mais les autres sont en train de faire tout un effort, comme chez nous aussi, ils font un effort pour qu'on ne puisse pas respecter les délais. Je crois que c'est une maladie que nous devons condamner et nous ne devons pas avoir de la honte quand nous recevons des leçons qui nous ramène réellement dans le respect des institutions ou dans le respect des textes de la République.
Je posais la question tout à l'heure à Serge Kadima pour savoir si la majorité au Congo a été capable de faire ce qui a été fait au Burkina Faso, où des gros poissons du parti présidentiel ont démissionné pour protester contre la révision de la Constitution par le président de la République.
Bon, vous voyez, je ne suis pas de la majorité, mais vous connaissez comment ces messieurs-là vivent à côté de leur majorité ou dans leur majorité. Ce sont des messieurs qui ne vivent pas avec la conscience tranquille. Ils sont là parce qu'il y a un problème d'intérêt. Il y a ceux qui estiment qu'ils peuvent avoir ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, accumuler un peu d'argent, mais dans leur propre conscience, ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Je crois, s'il y a des patriotes, s'il y a des démocrates, ils finiront réellement par comprendre qu'ils doivent rejoindre la voix de la vraie majorité qui est l'opposition, qui réclame réellement, comme on nous avait prodigué des conseils par Obama en 2009, et nous avons besoin Merci. Des institutions fortes et non pas des messieurs ou des individus Merci. Forts.
Professeur Bob Kabamba, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Georges Bissimwa, à partir de Bukavu, problème de sud Kivu. Malgré l'implication des États-Unis dans le respect strict des élections de 2016, moi je ne crois pas à cette bonne foi. Parce que nous avons constaté qu'ils ne cherchent rien d'autre que la balkanisation du pays. Les élections de 2011 nous ont montré clairement la volonté des États-Unis vis-à-vis de la RDC. Moi je vous assure que la solution du Congo ne viendra pas de l'extérieur, mais plutôt des Congolais eux-mêmes.
Professeur Bob Kabamba, réaction.
Merci beaucoup. Je remercie l'auditeur pour cette question pertinente. En fait, il y a deux choses dans son intervention, dans sa question. La première, c'est que il faut bien se rendre compte que les États-Unis n'ont qu'une politique d'intérêt. Ça veut dire qu'ils ont des relations, des partenariats avec le Congo, dès l'instant que le Congo permet à ce que les États-Unis pour devenir très forts. Et donc ça, de manière très claire, sans ambiguïté, c'est tout à fait le cas actuellement. Et la balkanisation du Congo ne permet pas à aux États-Unis de pouvoir asseoir véritablement leur puissance, surtout à l'état actuel où ils sont en concurrence sur le terrain congolais, pas que sur le terrain congolais d'ailleurs, sur le terrain africain, ils sont en concurrence avec la Chine et avec d'autres puissances émergentes sur le continent. Donc la balkanisation du Congo ne rentre pas dans les intérêts des États-Unis. Ça, c'est une chose. Et les intérêts des États-Unis, c'est plutôt dans la consolidation de l'État congolais pour permettre justement aux États-Unis de pouvoir avoir accès surtout à la manne pétrolière pour laquelle où il n'y a pas encore toute une série de contrats qui ont déjà été signés avec des entreprises chinoises. Ça, c'est une chose. L'autre chose, pour un deuxième aspect
de la question de l'auditeur, là, je souscris de manière très claire en disant que s'il appuie effectivement un chef d'État, c'est en fonction de ce que ce chef d'État représente par rapport à l'intérêt. De manière claire, on l'a vu par exemple à l'Arabie Saoudite, où ce n'est pas la démocratie, et pourtant l'Arabie Saoudite continue à être un des véritables piliers des Américains au Moyen-Orient. On peut prendre le cas de Djibouti aussi, où il y a des problèmes quand même de gouvernance assez graves. Les États-Unis, du fait qu'ils ont besoin de Djibouti, parce qu'il y a une base américaine à Djibouti, ils acceptent bien qu'il puisse y avoir un régime qui ne respecte pas nécessairement les droits de l'homme. Donc au niveau des relations internationales, tout est intérêt quand même, tout est question au niveau des relations internationales, tout est question d'intérêt et de puissance pour les Américains.
Alors, Serge Kadima, qu'est-ce que vous répondez à ces compatriotes qui pensent que les États-Unis se comportent en donneur de leçons?
Non, bon, je peux peut-être dire tout simplement que les États-Unis ne se comportent pas en donneur de leçons, mais plutôt, ils apportent leur contribution. C'est un encouragement, c'est un conseil. C'est vrai que chacun peut le percevoir comme il entend, mais moi, je considère tout simplement que la position des États-Unis n'est pas une parole de l'évangile, parce que la RDC n'est pas sous tutelle, mais sinon, ce sont entre autres les pays qui avec lesquels nous sommes obligés de collaborer. Alors, je pense que c'est dans le cadre de nos collaboration, de notre partenariat que les États-Unis s'est permis de donner son point de vue par rapport à la marche de la démocratie en Afrique d'une manière générale et au Congo en particulier.
Alors, il nous reste moins de 4 minutes. Il faut déjà conclure. Serge Kadima, je rappelle que vous êtes cadre du PPRD, parti de la majorité présidentielle. L'honorable Mukonkole a par exemple fustigé le fait que la CENI propose que l'on commence par les élections locales, municipales et autres. Ne faudrait-il pas maximiser ces moyens-là en commençant par les présidentielles, par exemple?
Non, je pense plutôt que l'honorable Mukonkole s'est contredit. Je pense que ne pas commencer les élections par là, c'est aussi trahir la Constitution, parce que la Constitution dispose que on doit commencer l'organisation des élections par des élections locales, urbaines, provinciales, puis ainsi de suite. Et je pense que c'est que le président Maluma le propose, c'est ce qui est indiqué dans la Constitution.
Merci Serge Kadima. Honorable Martin Mukonkole, décidément, qu'est-ce qui effraie l'opposition?
Il n'y a rien qui effraie l'opposition, mais nous constatons seulement qu'au niveau de la majorité, ils n'ont pas la culture de respecter les textes. J'ai dit ici que si Maluma lui est arrivé, c'est parce qu'il y avait tricherie d'Ngoï Mulunda. Il est venu pour qu'il continue avec les processus. Pour qu'il continue avec les processus, il doit organiser des élections provinciales et sénatoriales, parce qu'il y a des institutions qui sont déjà hors mandat. Il faut arriver à régulariser les mandats de chacune des institutions. C'est pourquoi nous disons au niveau de l'opposition, nous devons voir une CENI qui organise les élections provinciales afin qu'on renouvelle les Sénats et les gouverneurs. Et ce n'est qu'après que nous pourrons maintenant arriver en 2016 à organiser les élections présidentielles et législatives, pour qu'après 2016, qu'on puisse organiser les élections locales. Je crois que c'est plus légitime et légal. Et il y a peut-être une question que nous n'avons pas abordée ici, c'est la question de la municipale. Le sénateur américain en a parlé. Vous vous rappelez de ce qui vient de se passer aujourd'hui au Parlement chez nous? Le Sénat a voté pour qu'on puisse tenir compte de 2000.
Honorable, excusez-moi, ça fera l'objet d'une autre émission plus élaborée la semaine prochaine. Pour revenir simplement au sujet des élections, pensez-vous qu'il faudrait espérer par rapport à 2016?
Nous avons de l'espoir parce que nous savons que nous nous battrons pour que les élections puissent se tenir en 2016, surtout les élections présidentielles. Et avant 2016, s'il y a des élections qui doivent se tenir en 2015, ça doit être des élections provincial, sénatorial et des gouverneurs.
Merci honorable Martin Mukonkole. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement, parti politique de l'opposition. Professeur Bob Kabamba, en guise de conclusion, est-ce que les Congolais doivent espérer par rapport à 2016?
Par rapport à 2016, il y a deux questions que les politiciens congolais doivent absolument décider. Est-ce que l'on fait les élections sur base du fichier actuel, ou bien est-ce qu'on refait un recensement général pour avoir un corps électoral qui soit représentatif au sein de la RDC? Et donc, à la réponse à ces deux questions, dépend de 2016. Si on tient compte du fichier électoral actuel et que l'on peut réviser, il y aura des élections en 2016. Mais si on fait le recensement et arriver à avoir un corps électoral qui se reflète effectivement à la représentation politique de la RDC. Alors, il n'y aura pas d'élection en 2016 si on fait le recensement.
Et à ce moment-là, on aura prolongé le mandat du président Kabila.
Mais ça dépend de ce que les politiciens vont décider, parce que c'est une décision, de mon point de vue, qui concerne aussi bien le gouvernement que toutes les institutions de la RDC. Merci. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend l'option du fichier électoral actuel, est-ce qu'on prend l'option du recensement général de la population, en plus d'avoir un corps électoral qui soit plus juste et qui n'est prête à aucune discussion ou à aucune interprétation erronée.
Merci professeur, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention, chers auditeurs et internautes. Au revoir.